Radio Okapi.
Le journal, présenté par Noël Aluzitu Kabambi.
La journée internationale de la liberté de la presse a été commémorée le 3 mai. En RDC, l'aggravation de la crise après la chute des villes de Goma et de Bukavu a conduit certaines radios communautaires du Nord Kivu et du Sud Kivu à réduire le personnel et à instaurer un service minimum. D'autres peinent à reprendre leurs émissions après avoir arrêté les programmes lors de l'arrivée de la rébellion dans ces deux villes. Plus de 100 cas de choléra avec 2 décès sont enregistrés depuis le début de la semaine dernière dans les deux zones de santé de Niemba et Kalemie. Parmi les causes de la propagation de cette maladie, le chef de bureau information et communication à la division provinciale de la santé du Tanganyika parle notamment de la perturbation de la desserte en eau potable. Et puis, vers la fin de ce journal, le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Uele va s'entretenir avec André Kitenge. Emmanuel Arama Odingo Kiro va parler des conséquences du phénomène des éleveurs Mbororo dans cette province. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Célébration le samedi 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. En RDC, le secteur des médias est affecté par la crise économique et sécuritaire qui touche les zones occupées par l'AFC M23 depuis plus de 3 ans. L'aggravation de la crise après la chute des villes de Goma et de Bukavu a conduit certaines radios communautaires à réduire le personnel et à instaurer un service minimum. D'autres radios, elles, peinent à reprendre du service après avoir arrêté les programmes lors de l'arrivée de la rébellion. Dans ce reportage de Daniel Chemati, journaliste de la radio UPDECO FM basé à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, il nous présente la situation sur place.
Dans ces locaux presque silencieux de la radio Alliance FM, situés à Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, ici au Nord Kivu, les activités sont au ralenti depuis plus de 2 ans maintenant. Le personnel a été réduit, tout comme les émissions. Mais malgré le manque de ressources financières, le reste de l'équipe de la radio est très engagé. Comme beaucoup des radios communautaires du Nord et du Sud Kivu, l'Alliance FM s'efforce de maintenir sa présence dans une période marquée par l'incertitude, la paralysie des activités économiques, l'arrêt des interventions humanitaires durables, la fermeture des entreprises privées, suivie de toutes les autres conséquences d'une crise sécuritaire prolongée. John Corao est le directeur de la radio Alliance FM.
Depuis que nous vivons cette situation, nous n'avons plus de partenaires. Notre situation financière est catastrophique. Cela nous met dans les conditions très difficiles de travail.
Faute de soutien, certaines stations ont interrompu leur programme. D'autres résistent avec des moyens très limités car les journalistes sont conscients de l'importance de leur mission. La population locale risque d'être complètement isolée si les radios communautaires ferment.
L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, c'est le thème sur lequel les professionnels des médias ont réfléchi le samedi au Maniema à l'occasion de la Journée internationale de la presse. À cette occasion, le président du comité de transition de l'UNPC Maniema appelle tous ses pairs à une bonne collaboration et à prendre conscience de l'évolution numérique. Faisant d'une pierre 2 coups, ce comité de transition a remis des diplômes de mérite à certains journalistes qui se sont distingués dans leur métier et qui sont aujourd'hui des élus du peuple. Florence Kizalunga.
Cette journée est un moment d'échange entre les chevaliers de la plume et du micro, estime le président provincial de l'UNPC, Grace Mbambi Wambambi.
C'était à la fois une commémoration, mais aussi une retrouvaille entre confrères pour discuter aussi des questions qui touchent notre corporation.
Le ministre provincial de médias réitère son engagement de travailler en collaboration avec les médias, Georges Kasongo.
Vous savez, la presse, même s'il n'est pas écrit quelque part, la presse c'est le quatrième pouvoir et le pouvoir ne peut que respecter le pouvoir. Pour nous, on ne peut que dire le devoir de collaboration et de partenariat entre la presse et le pouvoir public.
Bertha Mouri, femme journaliste à la radio Mapon, témoigne que les journalistes travaillent bien sans être interpellés.
En tant que femme journaliste dans la province du Maniema, j'estime que nous faisons mieux notre travail parce qu'il n'y a pas d'interpellation, malgré qu'il y a des cas isolés dans les territoires, surtout dans les zones insécures. Mais les autorités ne tarde pas à intervenir dès qu'il y a une alerte.
Signalons que ce thème de la journée a été animé par le journaliste Maurice Otambwe. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kalemie, plus de 100 cas de choléra, dont 2 décès, sont enregistrés depuis le début de la semaine dernière dans les 2 zones de santé de Niemba et de Kalemie. Se confiant le jeudi à la presse, le chef de bureau information et communication à la division provinciale de la santé du Tanganyika indique que les causes de cette flambée de choléra sont multiples. Il cite notamment la perturbation de la desserte en eau potable. Les propos du docteur Wilma Luabola, chef de bureau information et communication à la division provinciale de la santé du Tanganyika, sont sélectionnés ici par Paula Munanga.
Notre province a connu un problème de rupture d'eau, d'approvisionnement donc d'eau de boisson pendant une période d'environ 7 jours. Il s'est fait que pour nous c'est un facteur aggravant par rapport donc à l'épidémie de choléra. Notre province est endémo épidémique, surtout pour les deux zones de santé qui se trouvent donc dans la ville ou le territoire de Kalemie et Niemba. Et donc nous sommes endémo épidémique pour dire que le choléra il est permanent, mais il y a des facteurs déclenchants ou des facteurs aggravants par rapport donc au choléra. Et entre autres c'est la rupture donc en eau potable, en eau de boisson, en eau des régies des eaux. Les gens donc s'approvisionnent soit à Mukuga, soit au lac Tanganyika, mais du coup il n'y a pas de chloration par rapport donc à l'eau qu'ils sont en train d'utiliser. Suite à ce facteur, nous avons eu une flambée des cas de choléra et cela a commencé depuis le 29 avril de ce mois. Donc à partir de lundi, nous avons eu beaucoup de nouveaux cas. On est arrivé à 79 nouveaux cas juste pour une journée. Ça c'est donc le lundi. Et le mardi, on a eu 39 cas. Aujourd'hui, que nous venons donc de tenir la réunion, nous sommes à 18 cas depuis le matin.
Toujours en santé, résurgence de l'épidémie de peste dans la zone de santé de Réti, territoire de Djougou en Ituri. Dans son rapport hebdomadaire rendu public hier dimanche, la coordination provinciale de la protection civile, qui cite les sources médicales, affirme qu'une 20aine de cas positifs ont été enregistrés jusqu'à la date du 25 avril dernier. Pour tenter de limiter la propagation de la peste, la coordination provinciale de la protection civile recommande à la population de respecter les mesures d'hygiène nécessaires et d'éviter de manipuler les corps des personnes malades. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Cette maladie refait surface avec le retour de la saison pluvieuse, affirme le responsable en Ituri de la coordination provinciale de la protection civile, une structure de l'État. Parmi la 20aine de cas notifiés, 23 souffrent de la peste bubonique et 2 de la peste pulmonaire, tout avec crachats, teintés de sang, forte douleur thoracique, difficultés respiratoires et une forte fièvre accompagnée de céphalées sont là les symptômes observés chez les malades, indique le responsable de ce service qui s'appuie sur le rapport de la zone de santé concernée. Elles encouragent la population de se faire dépister le plus tôt possible dès l'apparition des premiers signes similaires à ceux de la peste et d'assainir l'environnement. La consommation des animaux, principalement le rat, agent vecteur principal de cette maladie, est interdite. Par ailleurs, tout le monde est appelé à ne pas manipuler les corps suspects des malades décédés de cette maladie. Aux voyageurs qui fréquentent cette région, d'observer strictement les mesures d'hygiène de peur de ramener la maladie vers des milieux non encore affectés. Bounia, Jean-Claude qui dit les Radio Kapi.
Les députés provinciaux du Haut-Ouélé digèrent très mal l'absence du directeur provincial de l'Office des routes à la séance plénière de vendredi dernier. Il y était attendu pour fournir des explications sur le retard dans les travaux du pont Bamokondi situé sur la route nationale numéro 24 dans le secteur de Gombari. Cet ouvrage de 84,5 mètres s'est effondré depuis septembre 2023. Les travaux entrepris par l'Office des routes n'évoluent pas, selon les députés provinciaux. Le directeur de l'Office des routes justifie son absence à la plénière de vendredi par des impératifs administratifs à Kinshasa. Le point avec Jacques Moukonkole.
Le pont Bamokondi relie le sud du Soudan à la RDC, notamment par la ville de Sirou, en passant par les territoires de Ouattara et Faradje. Son effondrement a occasionné des conséquences socio-économiques indéniables. L'initiateur de ce moyen de contrôle, Joseph Mathieu Timda, considère l'absence du directeur provincial de l'Office des routes à cette séance comme un pur sabotage.
L'Assemblée provinciale a recouru à l'article 175, dans la plénière qui a décidé des sanctions de la part du directeur provincial. provincial de l'Office des routes. Il a saboté la première restitution de la province.
Le directeur provincial de l'Office des routes justifie son déplacement à Kinshasa pour une séance de travail avec sa hiérarchie. Le gouverneur de province et le ministre des Travaux publics en sont officiellement informés, précise Junior Swami.
Je vais mettre à disposition les postes du ministre, c'est le ministre qui va aller répondre. De deux, le jour où j'ai reçu cette invitation, c'était au même moment où j'ai reçu l'invitation à Kinshasa pour une réunion officielle de tous les directeurs provinciaux. Et parmi les débats, il y a même ces relations que nous, les directeurs provinciaux, nous avons vis-à-vis des autorités provinciales.
Qu'à cela ne tienne, les travaux déjà réalisés étant évalués à 85%, Junior Swami se donne encore 2 semaines avant de livrer cet ouvrage aux autorités en vue de son exploitation. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
L'Assemblée provinciale du Kwilu conditionne toute sortie de fonds du Trésor par le gouverneur de province intérimaire par une autorisation dûment signée de cette Assemblée provinciale du Kwilu. Cette instruction est contenue dans une correspondance signée par le président de l'organe délibérant du Kwilu, maître Claude Moukoumpel, adressée au gouverneur intérimaire Félicien Kiwai. Selon ce même document, c'est dans le but de sécuriser les recettes de la province durant cette période transitoire en attendant l'entrée officielle en fonction du nouveau gouverneur récemment élu. Plus de détails avec vous, Irène Mbomaluzolo.
Dans cette correspondance signée par maître Claude Kumpel, président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, ce dernier porte à la connaissance du gouverneur intérimaire de cette province que toute sortie en banque des fonds du trésor provincial est interdite sans l'aval préalable de l'organe délibérant. Cela dans le souci de sécuriser les recettes propres à la province collectés auprès des différents assujettis par la régie financière du Kwilu durant cette période d'attente d'une nouvelle équipe à la tête de l'exécutif provincial, peut-on lire dans ces documents. En outre, l'Assemblée provinciale instruit aussi toutes les banques commerciales où sont logés les fonds de la province d'exiger du gouvernement provincial sortant l'autorisation écrite de l'Assemblée provinciale, autorité budgétaire de la province, avant toute sortie des fonds. Il est aussi interdit aux sociétés tabacicoles, brassicoles et des communications, tout paiement manuel des impôts et des taxes de la province. Ces recettes doivent être logées dans les comptes bancaires officiels de la province, conclut la correspondance. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Le robot roulage placé au niveau du pont Kabu au croisement des boulevards Triomphal et Sendwe et de l'avenue Kasavubu dans la ville de Kinshasa ne fonctionne plus depuis quelques jours suite à un accident de circulation. Ce robot roulage a été enlevé momentanément pour sa réparation. Lors de sa descente samedi dernier sur ces lieux, l'ingénieur Thérèse Isaï Kirongozi, créatrice de ce robot roulage, a fait savoir à la presse qu'elle a déjà introduit le devis de 10 000 dollars américains au gouvernorat provincial de Kinshasa pour sa réhabilitation. On l'écoute au micro de Marcel Ngombo.
Le robot a été accidenté, c'était la nuit. On l'a enlevé parce que son état est tellement délabré. Et voilà pourquoi vous avez remarqué que maintenant ce sont des agents de la police qui font la régulation à répétition. Donc si nous avons fabriqué le robot roulage, c'était pour enlever cette pénibilité que vous êtes en train de voir un être humain qui est en train de faire le même mouvement plusieurs fois. Et puis nous avons pas seulement la problématique de ce robot, mais il y a aussi d'autres équipements. Si nous partons vers Palais du Peuple ou 24 novembre ou à Kitambo, vous allez voir que nos équipements, que ce soit de feu, de signalisation ou de robots, ont un souci par rapport à la maintenance. À l'immédiat, nous avons déjà, si je puis dire, introduit des devis par rapport à la maintenance et les entretiens de robots au gouvernorat de la ville province de Kinshasa. Nous attendons que le gouverneur, avec son gouvernement, de nous appeler pour qu'il nous donne les moyens. Nous donne les moyens financiers pour qu'on réhabilite le robot qui est au niveau du pont Gabi et quelques robots qui sont aussi en place.
Et puis l'entreprise Safrimex a lancé à la fin de la semaine dernière les travaux de la chaussée sur l'avenue Lulua reliant Notre-Dame à l'aéroport de Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du projet de modernisation de 11 km de la voirie urbaine. François Kadima nous en parle.
La circulation est bloquée sur cette voie dans sa partie comprise entre la station Elf et l'hygiène publique. Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, qui a assisté au démarrage de ces travaux, a instruit pour que les avenues Macquart et du Commerce servent de déviation. Elles ont été urgemment remises en état de praticabilité pendant que l'avenue Loulois est en chantier. Cette route est essentielle, disent les habitants de la ville, qui ont besoin de la voir asphaltée et modernisée pour le bonheur de tous. Loulois est l'une des grandes artères très exploiter. Cette artère emblématique qui prendra un tout nouveau visage sera asphaltée progressivement entre Notre-Dame jusqu'à l'aéroport selon Safrimex. D'après les directeurs techniques de cette entreprise à Kananga, l'objectif est de refaire une nouvelle chaussée selon les étapes. Après l'assainissement, c'est l'étape de nettoyage de la chaussée et de la scarisation, révèle l'ingénieur Paul Mukendi. Les soucis est de voir les travaux ne pas prendre beaucoup de temps et s'exécuter dans les délais de Kananga. François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Plusieurs centaines d'opposants se sont rassemblés hier dimanche à Lomé au Togo pour dénoncer une dérive monarchique au lendemain de la prestation de serment du dirigeant Faure Gnassingbé dans des nouvelles fonctions sans limitation de mandat. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a prêté serment samedi à Lomé comme président du Conseil des ministres, désormais la plus haute fonction du pouvoir exécutif après une réforme constitutionnelle prononcée par l'opposition qui l'accuse de vouloir rester indéfiniment au pouvoir. Pour les autorités, il s'agit au contraire de dépersonnaliser le pouvoir. Notez que Faure Gnassingbé a succédé à son père Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé sans partage le Togo pendant près de 38 ans.
L'invité.
Notre invité est Emmanuel Arama Odingo Kiro, ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Uele. Il explique que cette province a subi de plein fouet le phénomène des éleveurs Mbororo. Il indique que son gouvernement compte identifier et cantonner ces éleveurs et leurs bêtes qui dévastent les champs de la population afin de protéger les communautés locales et l'écosystème. Le ministre provincial du Haut-Uele de la communication, Emmanuel Arama Odingo, s'entretient avec André Kitenge.
Emmanuel Arama Odingo Kiro, bonjour.
Bonjour.
Bientôt une année que votre gouvernement a été investi. Parlez-nous des défis à relever par votre gouvernement.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La province du Haut-Uele fait face à plusieurs défis. On peut commencer d'abord dans le cadre des infrastructures. Nous avons de sérieux problèmes avec nos infrastructures routières. On a trouvé la province avec des routes pratiquement délabrées sur tous les axes. La RNV5, l'axe Nyanya jusqu'à Isiro. RNV6, Isiro, Mungwere, Wacha jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud. Toutes ces routes-là étaient pratiquement impraticables. Et de cela s'ajoute encore la vétusté des ouvrages de franchissement. Tous nos ponts vieillis, en fait, ce sont des ponts hérités de l'époque coloniale jusqu'à ce jour avec les tonnages des véhicules qui sont actuellement en fabrication. Les ponts n'étaient pas. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Mais aussi, nous avons d'autres défis que le gouvernement provincial tient à tout prix relever. Dans le domaine de la sécurité, nous pouvons dire que la province du Haut-Uele, à part les cas des bandits à main armée qu'on peut enregistrer ça et là, la province est relativement calme. On peut noter aussi de temps en temps la présence des rebelles sud-soudanais dans les territoires de Faradje, et précisément à bas toute cette frontière-là, on note de temps en temps l'arrestation des rebelles Nafsa surtout.
Vous avez évoqué l'aspect sécuritaire, mais il y a une question qui se pose avec acuité, c'est le phénomène des éleveurs Mbororo. Qu'en est-il? Il y a plusieurs plaintes, notamment ces éleveurs Mbororo, leurs bétails sont en train de ravager les champs des paisibles citoyens.
Oui, effectivement, notre province, comme la province de Bazouélé, fait face à la présence massive des éleveurs Mbororo. Et ces éleveurs impactent sensiblement les activités de la communauté locale. Nous sommes réputés une province essentiellement agricole. Nos populations font les champs, mais la présence des éleveurs Mbororo impacte aussi leurs activités champêtres. Au-delà de ça, on les retrouve aussi dans des aires protégées. Le parc national de la Garamba est aujourd'hui envahi pratiquement par ces éleveurs. Ils sont nombreux dans les parcs, mais ça impacte l'environnement, l'écologie, tout ça. Mais aussi, il faut noter, ces éleveurs vers Mbororo. Aujourd'hui, ils sont dans notre province il y a plus de 20 ans. Ils continuent à paître leurs vaches, ils continuent à commercer avec les bouchers de la région. Non seulement dans la province du Haut-Ouélé, tous les territoires partent acheter le bétail auprès des éleveurs Mbororo. Mais curieusement, ce sont des éleveurs qui élèvent leurs bêtes sans remplir tous les prérequis. Qui dit prérequis? Ces éleveurs ne traitent pas leurs bêtes comme telles. Ils ne consomment pas du sel, ça c'est un problème. Ils ne vaccinent pas leurs bêtes. S'il y a le cas de maladie, les informations de notre possession font état qu'ils soignent leurs bêtes avec des produits destinés plutôt aux humains. Selon les vétérinaires, quand nous consommons ces bêtes-là, c'est vraiment un problème réel de santé publique dans notre région. Parce qu'il est urgent que ces éleveurs soient absolument encadrés. L'idéal, c'est de les voir retourner chez eux. Mais d'autant plus qu'ils ne sont pas encore rentrés, nous pensons qu'il faut tout de suite là qu'on leur trouve peut-être un pâturage commun, qu'ils soient cantonnés là-bas, qu'on puisse suivre toutes les bêtes qui viennent de leur cheftel avant que ça soit consommé par la population.
Quelle est la politique de votre gouvernement en cette matière? Parce que ça fait plus de deux décennies que ces éleveurs Mbororo sont sur le sol de la province du Haut-Ouélé, mais aussi dans l'autre province sœur du Bas-Ouélé. C'est quoi la politique du gouvernement pour essayer de mettre fin à ce phénomène?
Nous pensons que la question peut se traiter à plusieurs niveaux. C'est une question avec des enjeux à la fois internationaux, nationaux, mais aussi locaux. Tout de suite là, comme je venais de le dire, notre politique va d'abord se baser. Nous passons d'abord les cantonnés. Une fois cantonnés, qu'on essaie d'identifier qui est Mbororo, qui ne l'est pas, il a quoi. Ça, c'est les actions à mener à court terme à cette matière.
Est-ce que les éleveurs Mbororo menacent la sécurité de la province?
Oui, nous enregistrons des fois les plaintes de la population que ces éleveurs sont armés. Nous pensons que nos forces de défense ont tout intérêt de s'assurer et de surtout de certifier d'abord cette information et prendre des dispositions utiles.
Emmanuel Arama Odingo Kiro, merci.
C'est à moi de vous remercier et je salue tous les auditeurs de la radio Okapi.